alors ça avance.
Étienne, je peux pas dire de mal de ce livre. Il a une force, une émotion. Il a un vrai talent, ce Nathan. C'est inspiré, sincère, jamais convenu.
Oh, s'il te plaît.
Je t'assure, il est toujours à la bonne distance par rapport à son sujet. Tiens, écoute la dernière phrase. Je n'espère plus rien et je commence à vivre. C'est beau, on dirait du Corneille.
Oh, bah, il a certainement piqué à Corneille, d'ailleurs.
Comment tu veux que j'en dise du mal ?
Mais on peut toujours dire du mal, c'est juste une forme d'esprit à prendre.
C'est-à-dire ?
Je vais te raconter une histoire. Un jour, deux critiques sont sur une barque, sur le lac de Tibériade, en Terre Sainte. Et soudain, le Christ apparaît. Et il commence à marcher sur l'eau. Un critique se penche alors vers l'autre et dit « T'as vu, il sait même pas nager. »
Tandis.
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi, j'étais fatigué.
J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Bon, de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu me retailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, prostitue. Oh, ton cul.
Si le livre est émouvant, tu dis qu'il est complaisant. S'il a un style classique, il est académique. S'il est drôle, il est superficiel. S'il est intelligent, il est prétentieux. S'il est inspiré, il est racoleur. Et puis tu déroules.
Si le récit est bien construit, il est prévisible. Si l'auteur a du style, c'est pour cacher qu'il n'a rien à dire.
Et puis tu peux t'en prendre à la longueur aussi. Ça fait toujours mal, ça. Tout est toujours trop long, donc confus, pas maîtrisé. On comprend pas où l'auteur veut en venir. Est-ce que lui-même le sait, d'ailleurs, non?
Et en même temps, si c'est maîtrisé, ça manque de folie.
Et si c'est fou, c'est incohérent. Allez, on y va. On va s'en occuper du Nathan.
Son désir de se venger des Doria, des Châtelet, des Louise, d'Angoulême, des Pommes de Terre et du monde entier est un lieu à Lucien de conscience et d'inspiration pour assassiner l'œuvre de Nathan. Ce plaisir critique, sombre et solitaire, est comme un duel avec un absent, blessé à distance d'un trait de plume. Et malgré la facilité et la vulgarité de cet esprit moqueur, il est souvent bien accueilli par certains journaux.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin.
Salut les kids.
Et nous parlerons en effet aujourd'hui, comme vous avez pu peut-être le deviner avec les extraits qui entourent notre générique, de Xavier Giannoli et puis du Rayon et des Ombres, sa grande œuvre de 3h15 sur la collaboration.
Il était une fois en France.
C'est exactement ça. Mais on va d'abord démarrer cette émission, parce qu'on va pas faire une heure non plus sur du Rayon des Ombres, sur deux trois petits films suivant le temps qu'on va se laisser pour ça, à commencer par le dernier film de Gus Van Sant, La corde au cou, Dead Man's Wire, reconstitution un petit peu d'un fait divers américain dans les années 70, d'un bonhomme acculé et qui en veut à un agent de prêt, hein, grosso modo, et puis qui va le kidnapper. Et en fait, moi, le film était pas mal, hein, mais je l'ai déjà un peu oublié, moi, très honnêtement. Mais par contre, j'avais vu, en fait, il y a quelques mois déjà, à la sortie d'un nouveau film de Gus Van Sant annoncé, et je m'étais dit, Tiens, c'est un bonhomme que j'avais oublié qu'il existait. J'avais complètement oublié Gus Van Sant, en fait, et j'attendais absolument pas, en fait, la sortie d'un nouveau film de Gus Van Sant, quoi. Et j'ai jamais particulièrement apprécié son cinéma. J'avais jamais particulièrement apprécié son cinéma, en tout cas. Je lui en voulais même un petit peu, quand même, pour Elephant et pour certaines... façon qu'il avait de faire, en fait, pour moi, de reproduire des œuvres préexistantes. Même si j'ai bien compris, c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus quand même, que ça fait partie de son travail, cette question de reproduire. Il le fait, lui, dans ses films. Il va reproduire, il prend William Ting et puis après, il fait La Rencontre de Forrester. J'avais déjà parlé un peu de ces trucs-là dans de précédentes émissions. Le meilleur exemple étant peut-être son Psychose, son remake plan pas plan de Psychose, en fait, qui a plus sa place dans un musée d'art contemporain que dans un cinéma. Et ce qui m'a un peu intéressé quand je suis revenu du coup sur lui, c'est de me dire il est quand même capable de faire justement ces objets un petit peu énigmatiques entre guillemets, ou vraiment en effet qui rentrent dans le cadre de l'art contemporain, comme il était plutôt à l'aise, et je l'ai redécouvert du coup à ce moment-là, dans des productions un peu plus, non pas académiques mais en effet classiques ou en tout cas populaires. Et j'ai eu le plaisir de revoir Will Hunting, j'ai trouvé ça super. J'ai pris un plaisir.
Tu vieillis, mec.
Je pense que cette émission risque d'assurer ce que tu viens de dire. En effet, je pense que je suis un vieux con. J'ai beaucoup aimé Will Hunting, un feel-good movie avec ce qu'il faut d'émotion dedans, du Elliott Smith. Je suis le public pour Will Hunting aujourd'hui, et la redécouverte d'un acteur merveilleux qui et qui est beau, il faut le dire, et qui est beau.
Jesse Plemons.
Alors,
Etienne Gadoret.
Et Matt Damon, en plus scénariste, bien évidemment, hein, comme il le sera d'ailleurs pour Jerry, que j'ai vu. J'ai enfin vu Jerry, parce que je me suis dit, mais en fait, rien que la présence de Matt Damon, ça me suffit pour regarder un film aujourd'hui, parce qu'il est super. C'est un plaisir de le regarder, en fait. Et du coup, j'ai regardé Jerry avec beaucoup de plaisir.
Pour ceux qui ne sauraient pas, Etienne Cadoret ressemble énormément à Matt Damon et à Jesse Plemons.
Si seulement. Si seulement, parce que, on a quand même affaire, du coup, à un putain d'auteur. Enfin, il va falloir qu'on fasse une émission spéciale Matt Damon. On en fera des t-shirts aussi, d'ailleurs, sans doute après. Mais il y a vraiment quelque chose à faire avec Matt Damon en tant qu'auteur. Et puis, jusqu'ici, personne ne s'est... Donc, un jour, on va vraiment faire notre émission spéciale Matt Damon. Et donc voilà, j'ai en tout cas pu redécouvrir avec beaucoup de plaisir Gus Van Sant, même si j'aime qu'un film sur trois, clairement, quoi. Et c'est vrai que tous ces derniers trucs, même Paranoid Park par exemple, c'est pas pour moi. Elephant, c'est pas trop pour moi, mais je comprends, je vois la démarche d'auteur, des questions qui restent d'ailleurs dans son dernier, hein, qui a dans Will Hunting aussi, c'est cette envie de filmer des outcasts ou des types qui se mettent en marge en tout cas de la société, volontairement ou non, et puis jusqu'où ça peut aller. Voilà, c'est très intéressant, mais je préfère vachement Will Hunting à Dead Man's Wire. Voilà, c'était mon avis sur Dead Man's Wire, voilà ce que je te disais en antenne. J'ai beaucoup aimé la reconstitution, le petit grain numérique par IA peut-être de son film pour nous faire croire qu'on est dans les années 70. Et là encore, on a une reproduction, bien évidemment, la reproduction de la réalité. Et il nous montre même des vraies images à la fin.
Mais aussi, vu que le film a deux régimes d'images, à la fois le régime du film et puis celle des reconstitutions, des captations de reportages TV de l'époque, qui ne sont pas les vraies captations, mais en tout cas une reproduction. Oui, ça rentre complètement dans ce truc de je vais essayer de reproduire un petit peu ce truc là bon, écoute, moi j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'à chaque fois je me demande à quoi ça sert, mais à me dire
revois Will Hunting,
et
à la Rencontre de Forrester aussi,
y a des chances que vu que je suis plus vieux que toi, c'est évident que je vais adorer, peut-être même vu que je suis plus vieux que toi, que je vais encore pousser mon admiration encore plus haut que la tienne. Mais par contre, j'arrive pas à... Et je pense que le côté Will Hunting produit bien fini et tout ça qui pouvait m'énerver. Ouais, carrément. Mais je vais regarder ça avec mon gamin, sans problème. Mais c'est vrai que là, le côté, par contre, plus arty de Gus Van Sant, même si moi j'avais été plutôt. J'avais vécu une vraie expérience devant Jerry, j'avais plutôt beaucoup aimé, et Elephant m'avait laissé complètement froid. Mais ce côté plus radical, formel, en tout cas formaliste, et puis maniériste à fond, me laisse souvent froid, même si, encore une fois, je serais presque curieux de revoir quand même son psychose. C'est vrai que ouais, le côté maniériste m'énerve, et alors, là, clairement, dans ce film, moi, ça m'a parasité ma vision de voir cet entrecoupement de captation et tout ça. Je me dis, c'est super, tu as été capable de reproduire ça de façon très fidèle, mais je ne sais pas à quoi ça sert, et je ne vois pas en termes de discours ou de principes esthétiques, ce que ça peut amener de mettre un regard de ton récit, sa captation par la télévision, parce que en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le projet de vraiment faire donner de travailler vraiment cette idée, la réalité contre sa représentation et tout ça. Donc là, je me dis juste, oui, il y a un rapport un peu fétichiste à certains régimes d'image qu'il s'agit de reproduire. Moi, c'est ce que je ressens à chaque fois.
Je pense que tu as mis le doigt. Je pense que c'est exactement le même procédé que celui de Psychose plan par plan.
Oui, peut-être.
C'est-à-dire que là, ça fait partie de ces films, contrairement à Will Hunting, par exemple, voire même à Jerry, lui, est plus dans une suite contemplative à la Antonioni de Will Hunting, justement. On peut très bien imaginer, on en fait une soirée avec Will Hunting et on enchaîne avec Jerry, quoi. Mais par contre, là, on a un, donc je serais incapable de comprendre. Pour moi, c'est un peu comme si tu me parlais de la foi en Dieu, c'est de l'art contemporain, et en même temps, il tient à montrer sa capacité à mélanger cet art contemporain, cette installation de captation et de reproduction dans un schéma narratif et dans un produit pour le coup populaire et en fait consommable.
Ouais, je pense. Après,
sans être un Andy Warhol, je pense que Gus Van Sant, il est dans cette conception-là pour certains de ses films et pour d'autres non, quoi.
Et même dans ses films, je sais que le dernier. L'avant-dernier, me semble-t-il, c'était Dark Waters.
Il y avait Dark Waters. Non, ça c'était Todd Haynes.
Ah,
mais il y avait Promised Land.
Oui, c'est Promised Land
avec ce merveilleux Matt Damon,
ce merveilleux acteur,
mais qui était chiant. Là, pour le coup, il faisait justement il n'était pas de.
Oui, c'est ça. Et non, mais c'est marrant parce qu'en fait,
quand il n'est pas dans la reproduction et l'art contemporain, il arrive aussi
quand on en truc. Et je sais que Dark Waters, m'avait fait l'effet de me dire des enquêtes un peu, des films complots des années 70, quel est l'intérêt?
Parce que pour le coup, Gus Van Sant ne faisait pas avec Promised Land. Il était plutôt ancré, il est plutôt marqué lui encore par une esthétique et un rythme des années 90, en fait, qu'on retrouve un petit peu dans ses films. Et dans le dernier encore, t'as un rythme des années 90, en fait, avec Gus Van Sant. Ce qui peut-être, moi, me fait que ça fonctionne. Je me suis pas fait chier devant le film, je comprends, je connais bien ce rythme là quoi, donc très bien. Todd Haynes, il l'a pas complètement, en fait. Lui, il est plus en décalage, il est plus godardien presque, en fait.
ouais peut-être. Après, bon, Todd Haynes ça fait des chefs-d'œuvre, mais peut-être pas Gus Van Sant, je suis pas sûr. Et je reverrai Will Hunting, mais je sais pas, bon, on dit un petit mot sur l'autre film parce qu'on a un lien tout trouvé,
avec
Crime 101, avec donc Mark Ruffalo, qui ne joue absolument pas dans un film de Gus Van Sant, mais bien un film de Todd Haynes, Dark Waters, et qui malheureusement, Ruffalo, moi, qui est un peu un acteur qui depuis quelque temps est la seule qualité des films dans lesquels il tourne quand même, quoi. Il est toujours assez
Crime 101, c'est pas non plus une merdasse. C'est juste que c'est un film qui n'a aucun intérêt, je vais t'en laisser en causer, mais c'est pas complètement nul. Là, pour le coup, c'est pas de sa faute au petit Ruffalo, ni aux autres d'ailleurs. Si le type qui est derrière la caméra, il est bloqué dans ses références, en fait, et puis il est freiné, et il a pas grand chose à rajouter, en fait, que ce qu'il a déjà sous la main, en fait, comme une IA. En fait, il peut pas créer pour de vrai. Il reproduit des choses.
Ça a été assez douloureux, hein, parce qu'on parle évidemment d'un polar. Bon, on en a souvent. Enfin, on n'est d'ailleurs pas les seuls à évoquer ça. À quel point, Hit de Michael Mann a un peu tué le genre quelque part, ou en tout cas, il y a toute une sorte de lignée de polars dégénérés qui sont dans la lignée de Hit. Bon, après, il y a eu quelques bons film, moi je pense à Misanthrope de Damien Zifron, qui est quand même qui est plus sous influence Fincher, mais qui a une vraie patte quand même, et puis sûrement d'autres exemples, mais là qui m'échappent. Mais alors ce film là Crime 101, c'est quand même assez gênant,
c'est troublant,
c'est très très gênant,
sérieux, parce que là c'est plus de l'hommage ou du pastiche, t'as tout pompé, quoi, et puis ça va pas, quoi.
Ouais,
façon de filmer un personnage trois quarts d'eau, de le suivre sur le tarmac, tu dis sérieux, ouais. Tu croyais qu'on n'allait pas le voir avec
la maison en face de la mer, le truc de Tézeux et tout ça, et tu dis ouais non ça le fait pas, et enfin
oui y a, c'est gênant un petit peu. Parce que tu te dis on partage les mêmes les mêmes amours, tu sens que c'est un cinéma qu'il aime et il est honnête, je pense il est sincère quand il filme ses personnages de cette manière là en sachant très bien qu'il a demandé à son chef op de dire fais comme Michael Mann d'un film qui a plus de 30 ans. Il y a des cinéastes qu'on a aimé dans les années 90 ou avant qui refaisaient des choses de gens d'il y a plus de 30 ans aussi parce que c'était oublié. It n'est pas oublié, It est, en tout cas pour nous n'est pas oublié, It est bien ancré dans notre champ visuel. On s'est repéré quand le bonhomme est adossé face à la mer dans son appartement seul, qui pose son flingue et qui... C'est Hit, même si lui-même s'inspirait d'une peinture, et là ça freine tout et ça juste c'est un album photo presque de souvenirs.
C'est terrifiant parce qu'en fait il y a tout. C'est vrai que ça fait penser presque à un truc d'IA dans le sens où effectivement pris par morceaux le film en fait moi il y a plein de choses que j'aime bien. Alors même au-delà des références, je pense que je trouve que c'est bien, va bien interpréter, qu'il y a une vraie présence Alberi, de Ruffalo, de Barry Keoghan, je crois, il me semble, un acteur qui a une présence assez folle.
Billy Drago, un petit peu dans Les Incorruptibles aussi.
Oui. Les scènes d'action, de bagnole et tout ça sont plutôt correctes. Chris Hemsworth est plutôt correct aussi.
Lui-même qui vient de chez Michael Mann avec Hacker, Ruffalo qui vient lui aussi de Collateral. Il y a trop de choses là. Les références à Bullitt, à la voiture, le cinéma, voilà, qui influence lui-même Hit.
Ouais.
C'est-à-dire que Bullitt est une influence principale de Hit. Et là, du coup, voilà, on va faire se rejoindre Hit et Bullitt, en fait. Et donc, voilà, il en veut. Je sentais bien, il voulait faire un film hommage et se faire rencontrer les deux dans une ère contemporaine.
Sauf que pas du tout quoi, c'est ça le problème, c'est qu'après voilà on a plein d'éléments qui sont plutôt pas mal en termes de pure fabrication ou de production d'interprétation et tout, qui sont vraiment solides en tout cas qui correspondent à quelque chose d'assez agréable à regarder et séduisant on va dire, et un scénario qui est pas si nul que ça évidemment, mais en tout cas qui brasse des thématiques qui pourraient être intéressantes et pour
il se base sur un roman donc il a une base
c'est peut être relativement intéressant, voilà tout particulièrement les trucs dans la grande société avec la vieillesse de les 53 ans de la cadre, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais en fait il y a à aucun moment tu sens que c'est ça travaille en profondeur le film quoi, que c'est juste une excuse pour faire du cinéma. Là on est vraiment en face, alors c'est au-delà de Gus Van Sant. Là, Gus Van Sant, c'est très au-dessus par rapport à ça. C'est que là, on a vraiment affaire à quelqu'un, qui ne rêve que de faire du cinéma, mais surtout pas de raconter, de filmer quoi que ce soit. Quoi. Il veut faire un film qui ressemble à un film. Quoi. C'est pas surtout pas filmer quelque chose. Quoi. C'est terrible.
Je te laisse 2 minutes. J'aimerais bien juste que tu nous expliques pourquoi, alors que tu n'aimes pas justement, tu as pris du plaisir devant une comédie sociale anglaise.
Ah oui, parce que c'est dans la vie, c'est bien le cynisme, une peinture acerbe du réel et tout ça, mais des fois on a envie de bons sentiments. Donc moi, I Swear, aka plus fort que moi en VF,
I swear,
ce film
I swear.
Qui est le remake des Virtuoses mélangé avec le remake de Billy Elliot et mélangé avec le remake de Full Monty, mais on enlève la fanfare, on enlève la danse et on transforme ça vers le syndrome de la Tourette. Eh ben, j'ai trouvé ça génial. Et comme j'ai vieilli, maintenant je trouve
temps avec ton
que ce mode de comédie sociale à l'anglaise que j'ai abhorré dans mes folles années de ma jeunesse, maintenant je me dis quand même.
Vous la sentez bien, l'émission de vieux
d'écriture.
Non, mais c'est bien d'aborder ce sujet-là juste avant qu'on parle des collabos.
Exactement. là, franchement, une belle. Et puis, interprétation, en tout cas, toujours au top, tout comme dans The Full Monty, Billy Elliot et compagnie. Non. Et honnêtement,
en termes de mise en scène et esthétiquement, tu retrouves un petit peu justement des choses que tu as.
En fait, ça m'a donné. Et je parle en plus, c'est horrible parce que je parle sincèrement. Je me suis dit, j'ai voulu faire mon intéressant quand j'étais jeune l'année dernière, parce que c'était l'année dernière, j'étais encore jeune, maintenant je suis vieux.
Oui.
Et en te tout genre d'auban, en d'auban toujours sur Billy Elliot, les Virtuoses, Full Monty, j'en oublie d'autres. Hein. C'est des références qui sont déjà très 90s, parce qu'il y en a, y en a eu plein de
ceux-là. Voilà, mais en fait,
parce que maintenant, il y a eu We Want Sex Equality, il y en a eu plein, il y en a eu plein comme ça, dans le même style. Mais donc, on fait son intéressant
c'est
en d'auban
faisait,
un peu là-dessus.
C'est ce qui faisait des entrées à l'Arvor il y a 15 ou 20 ans.
Il
y avait toutes les semaines, on avait une comédie anglaise sociale.
Tout le corps enseignant des collèges lycées de France amène leurs élèves voir ça pour leur montrer de la haute culture et puis des films avec des vrais sentiments et une vraie problématique sociale.
Et doté dans Télérama.
Et moi j'ai toujours détesté ça. Maintenant je me dis j'ai eu tort, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment bien. Et non, j'ai trouvé qu'à
tour, j'ai moi, trouvé tu vois, non, j'ai fait mon coming
vrai,
out sur Will Hunting. Ouais.
En vrai, I swear. C'est super, l'acteur il est mortel et surtout quand même le syndrome de la Tourette, c'est quand même trop rigolo. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, que j'ai regardé avec mon fils, c'est que j'adore ce truc de moments d'émotion où tu sais pas si tu dois rire ou pleurer parce qu'en fait c'est tellement drôle comme maladie, c'est affreux, mais c'est tellement dur de pas rigoler.
Ouais, mais c'est ça. Mais là, du coup, tu te moques.
Exactement.
Là, du coup, tu te moques des handicapés.
Il le dit dans le film. Il le dit dans le film. Je sais très bien que c'est drôle ce que je fais, et moi, ça me fait chier. Mais oui, effectivement, t'es dans la position du spectateur.
Non, on l'avait pas encore fait. Là, c'est bien. Donc maintenant, on va se faire accuser de ça, de se moquer des handicapés. Il est temps de faire une pause avec des extraits qui vont mettre tout le monde d'accord, et on se retrouve juste après pour parler du nouveau film de Xavier Giannoli.
Il y avait beaucoup de magasins juifs ici dans cette
oui,
rue, je crois.
Oui.
Alors
oui.
Vous avez dû voir pas mal de choses.
Eh bien, c'est-à-dire, oui, ils sont partis, hein, n'est-ce pas? Ils se sont exilés.
Ils sont exilés, mais il n'y a pas eu d'arrestation.
Aussi, un peu partout.
Oui, vous les avez vus.
Hélas, oui.
Oui. Dites-moi, au moment de la parution des ce qu'on appelle les décrets juifs, il paraît que vous avez fait paraître une annonce à ce
exact.
Moment-là. C'est une annonce dans le Moniteur.
Ah ben vous êtes bien renseigné,
oui,
monsieur.
Oui. Oui, oui.
C'est exact.
Oui.
Figurez-vous, monsieur, nous étions quatre frères. C'est la réponse que j'ai faite parce qu'il me disait juif. J'ai mon nom qui est à consonance juif puisque je m'appelle
oui.
Klein.
Oui.
Je suis un,
oui.
Mais je suis catholique quand même.
Oui.
Alors j'ai eu des inquiétudes, on m'a inquiété à ce sujet.
Oui.
Alors j'ai répondu, ayant eu quatre frères mobilisés,
oui.
Et que ma foi j'étais français.
C'est ça. C'est-à-dire que vous avez tenu, vis-à-vis de votre clientèle à ce moment-là, à dire que vous n'étiez pas juif.
C'est exact.
Oui. Mais pour quel motif?
Ben parce qu'il s'avait paru que j'étais juif et puis qu'on arrêtait les juifs et puis qu'on était tous contre les juifs.
Oui.
Comprenez-vous? Mais j'ai dit, il n'y a pas de raison, je ne peux pas m'intituler juif du fait que je suis catholique.
C'est ça.
Et moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie d'écrier à une femme. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté tes romances, qui t'a inventé tes dimanches, qui t'a fait voyager. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'amener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léché, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir.
Mes amis, Je comprends votre colère. Je comprends votre haine. Mais de grâce, méfiez-vous du cynisme. Méfiez-vous des solutions hâtives. Bon, bien sûr, je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Moi-même, parfois, il m'arrive de me fâcher. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Êtes-vous sûr que les enfants que vous étiez ont rêvé d'un monde comme celui-là? Je suis sûr qu'il y a encore un peu de ces enfants en vous. Et c'est à eux que je m'adresse. Et je voudrais leur poser une question. Une simple question. Et si le cinquième Reich était plutôt celui de l'amour? Faire rêver ces nazis, je n'ai récolté que Rizet et Quolibet.
Ça suffit !
À l'instant, on a pu entendre avec beaucoup de plaisir, notamment un extrait de Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiret. Toujours bon, en effet, de se passer de Jean-Marie Poiret, de se rappeler de son existence. À l'instant, un extrait d'OSS 117 2 de d'Azanavicius. Et juste avant, c'était le grand documentaire de Marcelo Fulz, Le chagrin et la pitié, sur la collaboration dont on cause tout de suite avec les rayons, les ombres de Xavier Giannoli, qui n'avait pas fait de film depuis 5 ans, 6 ans, un truc comme ça.
Oh, non, moins que ça.
Bah non, les Illusions perdues. Ouais, il a fait une série entre temps.
Oui, mais les Illusions perdues, c'est un film qui est sorti il y a moins de 5 ans. Ah ouais. Ou il y a 5 ans. Mais
bah écoute, c'est l'un des derniers. Bah non, c'est 2021. On est en 2026. Bah écoute, mais c'est l'un des derniers films de Jean-François Stévenin, quoi.
Ouais. Oui, ouais, ouais. Hein, et c'est sorti il y a moins de 5 ans.
Je suis désolé, moi ça
m'a... Ne pinaillons pas.
Je dis juste que le type prend son temps pour faire des films, se renseigne, travaille, et un minimum exigeant. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'on a affaire à un bonhomme qui prend pas les spectateurs pour des cons, qui s'intéresse à ces sujets, surtout quand il s'agit de parler de collaboration. C'est important la collaboration. Et c'est peu traité au cinéma dans le cinéma français. Je te le disais avant qu'on démarre cette émission, je te mets au défi de me citer un top 5 de films sur la collaboration. Et je suis sûr que si tu fais un top 5, c'est les 5 films que tu connais sur la collaboration.
Ouais,
il y a du téléfilm, il y a du documentaire, la fiction s'en empare pas. C'est un peu comme la guerre d'Algérie. Alors que de la résistance, du film de guerre, voilà, ça tu peux en avoir bien. Et du collabo, tu en verras toujours traité de la même manière. Très bien, ça a été fait. Et lui, il fait un autre travail. Et moi, son travail qu'il fait m'intéresse parce que, comme je disais, je pense qu'il ne prend pas le spectateur pour un con. Je pense que là, encore une fois, je suis le public cible pour son film. Et je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. Je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible.
Parce que tu es un vieux.
Ça joue. Première chose, j'ai senti que j'étais vieux en allant voir un film de Xavier Giannoli de 3h15 sur un collabo et de pas me faire chier un seul moment et d'être intéressé par le film constamment. J'ai été intéressé par ce qui se passait. Et donc là, je me suis senti vieux. Tiens, l'histoire de France m'intéresse. Je suis vieux.
Et tu t'es même pas levé pour aller aux toilettes.
Je me suis même pas levé pour aller aux toilettes. Comme quoi, ben, je suis peut-être pas si vieux que ça, il faut que je profite de ma deuxième jeunesse. Ça, c'est la première chose. En effet, il aborde un sujet peu abordé et moi, j'étais content de me dire « Putain, c'est Giannoli et pas Antoniente qui traite la collaboration. »
Oh, j'aurais tellement envie.
C'est pas vrai. Je retire ce que je viens de dire. Je veux que Fabien Antoniente fasse un film sur la collaboration. Avec Didier Bourdon, bien évidemment. On est d'accord. Et s'il peut faire revenir comment il s'appelait notre acteur du Pacte des Loups,
Samuel
Le Bihan.
Ouais, il faut.
Et ben alors là, voilà. Et ça sera... direct sur France 3 un mardi soir, je suis devant mon écran. Mais non, non, parce que c'est, on n'a pas affaire à une petite production, à un film du milieu ou quoi que ce soit. Non, c'est un des plus gros budgets français de l'année. C'est énorme. C'est une grosse production qui va aborder...
Où est l'argent ?
Moi, je sais où est l'argent. Franchement, sur 3h15, cette reconstitution-là, moi, je la trouve impeccable, sans être tape à l'œil. Bref, je vois très bien, et je sais que Monsieur Dujardin a pris un petit peu. Et c'est très bien. Tiens, j'y pense. Jean Dujardin, moi, je suis... ravi en fait que ça soit lui qui interprète ce personnage de Jean Luchaire, c'est Luchaire hein, je dis pas de conneries, donc pour tous ceux qui a été un grand collabo parce qu'il avait la puissance d'être un grand collabo, hein, patron de presse, une sorte de pré-Bolloré, qui va mélanger aussi des trucs, bref, un type qui a de la puissance et qui a de grosses accointances avec Vichy et avec le gouvernement nazi.
Oui, il avait déjà joué Sylvain Tesson dans un film, donc ça...
Voilà, non, et non, mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'on utilise du coup cette figure de Dujardin qui, en effet, aujourd'hui, en 2026, représente la vieille France. Lui, il va jouer des OSS 117, d'autres personnages problématiques, il va faire la Coupe du Monde de rugby et puis le Français avec le béret et la baguette sous le bras. Il représente une vieille France à la Serge Tesson, justement, peut-être un peu moins à droite que Tesson, lui, j'en sais rien, mais lui, ce qu'il représente, en tout cas, pour moi, c'est cette vieille France qui sent un peu la naphtaline, où voilà, nos belles campagnes, notre bon pain, tout ça. Cette bonne France qui n'est pas encore complètement tombée dans l'extrême droite et dans le fascisme, mais une France de droite quand même, nostalgique. Il le prend, lui, pour jouer justement un type qui représente toutes les craintes de cette espèce de bourgeoisie contemporaine où justement ces notables dont tu parlais, qu'on pouvait voir dans les films, dont tu parlais hors antenne, du coup les gens ne comprennent pas. Hors antenne, on a parlé des notables dans les films, notamment les années 70, comment ils pouvaient être traités dans le cinéma. Aujourd'hui, je pense que ces nouveaux notables, ils ressemblent plus, ou en tout cas, ils se sentent représentés par quelqu'un comme Jean Dujardin, qui n'est pas dans l'extrême droite, mais qui est dans cette nostalgie de la vieille France et puis dans cette respectabilité, ce patriotisme un petit peu quoi. Et là, on le montre sombrer, ce personnage-là justement, dans ce qu'il y a de plus abominable. Mais, et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans le film, le grand mais d'ailleurs, c'est que je pense qu'il faut avoir une sacrée boussole morale pour rentrer et pour appréhender les rayons et les ombres. On n'est pas encore dans du Verhoeven, il ne nous fait pas un objet à la Starship Troopers, mais il n'empêche qu'il choisit donc quelqu'un, un acteur, et il nous présente ce personnage comme quelqu'un de charmant. Et on a affaire à voilà, et c'est ça qui pose problème, je pense, à beaucoup de gens de gauche qui ont du mal avec le fait qu'on s'attache ou qu'on soit ému même par ce personnage qui est abominable, sans que le réalisateur nous assène à longueur de film que les nazis sont méchants, que la collaboration c'est mal, ou qu'il faut pas être antisémite. Grosso modo, il n'y a pas dans le film, en tout cas, contrairement aux Illusions perdues, son précédent film, de vraie boussole morale dans le film. Donc c'est au spectateur de venir avec sa vraie boussole morale. Et moi, je débarque avec une boussole morale que je trouve plutôt costaude. Je sais, les nazis, non, c'est mal.
T'as vu Indiana Jones.
Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, c'est important. C'est important de dire. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui Indiana Jones on puisse le faire. avec, tiens, juste un nazi, c'est un méchant. Non, faudrait expliquer pourquoi il est méchant. Il y a un peu de ça quand même. Non, voilà, un nazi, c'est méchant. Un collabo, c'est mal. C'est méchant même. Voilà, il y a tout un tas de choses. Les antifascistes, tout ça, machin, c'est bien. C'est pas des fascistes. Faut pas faire la distinction entre les deux. C'est pas pareil, un fasciste et un antifasciste. Fasciste. Enfin, il y a des choses comme ça. Moi, je débarque devant le film avec ce truc-là. Et justement, de voir ce personnage avec sa relation ambiguë, voire carrément problématique avec sa fille. Je vois le film avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que ça me raconte, justement, d'une France bien pensante qui se pense même de gauche, comme c'est le cas de ce personnage, et qui sombre dans ce qu'il peut y avoir de pire, et ben ouais, en fait, il a trouvé pour moi le bon créneau, le bon moyen, lui et son merveilleux scénariste, et ils ont trouvé le bon créneau. Et je dis merveilleux scénariste parce qu'il ne faut pas oublier donc, du coup, que le petit Jacques Fieschi ou Fieschi, j'ai toujours un doute, c'est pas n'importe qui, c'est notamment un bonhomme qui a commencé à travailler avec Piala sur À nos amours et Police, si je ne dis pas de bêtises, et surtout sur Un cœur en hiver avec Sautet. Donc le type fait quand même plusieurs films avec Sautet et Piala, donc il a le cœur bien accroché.
Ouais, il a bossé avec Jaco aussi.
Hein. Voilà, ouais, je, ouais, non, mais...
Parce que je suis sûr qu'il a bossé avec le doyon.
Tu peux pas dire des
avec Weinstein aussi.
Forcément tout de suite. Sauf que moi je voulais revenir sur
il est aussi laisse... dans l'Epstein Files.
Et je te laisse dire tout le mal que t'en veux du film après. Mais du coup ça, tu vois ce rapport au personnage qui moi m'intéresse beaucoup me fait penser vachement à Un cœur en hiver. Car en hiver, on a affaire à un personnage qui a un handicapé émotionnel, qui n'est pas capable de ressentir de l'amour, mais qui va. Qui... Et c'est pas du cynisme qu'il a dans Un cœur en hiver, on en avait déjà parlé aussi hein, dans une émission spéciale, mais c'est autre chose, et c'est une autre façon d'aborder le bien, le mal, les émotions, les sentiments. Voilà, il a déjà travaillé là-dessus, le petit Jacques. Et là, on a affaire à un personnage similaire, et je parle toujours du personnage parce que le film présente vraiment son récit très romanesque comme des souvenirs et comme la vision de la fille de Jean Luchaire, avec tout ce qu'il peut y avoir de désordonné aussi, et puis justement cette fascination pour la figure du père. Mais on a affaire à un personnage qui, une nouvelle fois, et il ne sombre pas exactement dans le cynisme. Il est sans doute lâche, il est sans doute énormément de choses, mais il y a une forme de handicap émotionnel encore dans ce personnage qui, moi, me ramène à celui d'Auteuil dans Un cœur en hiver, sans être évidemment aussi précis et impressionnant que dans le film de Sautet, mais j'y retrouve quelque chose. Et la mise en scène, pour moi, elle accompagne complètement justement cette vision, ce point de vue de l'action. Et j'étais content qu'un film comme ça, aujourd'hui en plus, avec justement les troubles qu'on connaît dans notre pays, en fait, que ce film arrive, je pense que c'est exactement le bon moment.
Ouais, bon, moi, écoute, moi j'ai trouvé ça nul. Assez en plus moi je me suis un peu fait chier. Bon, là c'est un pur ressenti des spectateurs. Après je vais essayer d'être un petit peu plus précis, même si j'y arriverai pas forcément, parce que j'arrive pas à mettre le doigt exactement sur ce qui m'emmerde. Après
il est gênant, il est problématique ce film, et tout est pas parfait.
Ouais
je crie pas au chef-d'œuvre, hein.
Mais je pense par contre moi aussi je me suis posé la question, parce qu'effectivement j'ai un peu l'impression, en tout cas, d'avoir passé une bonne partie de ma vie de spectateur cinéphile, en tout cas, à valoriser justement cette idée des personnages ambigus. Évidemment, c'est un truc qui nous vient aussi de Premier Amour cinéphile du cinéma américain des années 70, ou qui d'un coup a valorisé des personnages un peu plus ambigus. Évidemment, si on pousse ce truc de l'ambiguïté, on arrive à cet extrême, en tout cas du cadran du cadran de la carte du cinéma, ça serait Verhoeven qui arrive à filmer des personnages complètement abjects, et puis de te mettre dans ta position de spectateur où tu es obligé d'avoir une boussole morale, évidemment. Donc moi je valorise plutôt ce truc là et ça fait en fait 3 jours, j'essaie de me rappeler la dernière fois où j'ai ressenti la même chose que là-dedans. Je me dis, oh la vache, l'ambiguïté est en train de devenir un académisme, en fait, est en train de devenir que je vois bien que il y a une génération de cinéastes qui arrive, qui est relativement proche de mon vieil âge, qui elle-même a grandi probablement avec les mêmes films que moi, et qui, pour qui l'ambiguïté est devenue une vertu cardinale, et qu'il faut absolument la préserver dans les films, que c'est devenu un projet en soi, et qu'il faut c'est un projet en soi. Et j'arrive pas à me rappeler l'autre film,
mais de là à parler d'académisme, c'est à dire que ça soit une nouvelle vague ou une norme, mais pas un académisme.
Alors moi, pour moi, c'est un académisme dans le sens où je me dis, pour moi, il y a le projet du film, c'est ça. J'arrive pas, si ce n'est au-delà, moi je ressens pas l'ambiguïté. Pour moi, le mec, c'est un veule, voilà. Enfin bon, bref, je m'en fous. C'est un crevard de jouisseur, machin. Moi, à aucun moment.
Un récit à la Scorsese aussi, en ouais, même temps.
Peut-être,
hein,
mais évidemment, Scorsese, Scorsese, il y a un truc comme ça aussi chez Scorsese. Bon, avec d'autres problèmes que ça, mais ça reste une des références aussi, je pense, de Gianoli, comme beaucoup de sa génération, comme beaucoup de cinéphiles de toute façon. Et en tout cas, quand tu parles d'absence de boussole morale, pour moi, il y a un film, il y a un truc sur lequel ce film me paraît un peu moisi, mais dans le sens moisi, pas moisi idéologiquement, mais presque moisi, genre comme un vieux meuble qu'on aurait sorti d'un grenier, et qui me fait penser à ces trucs, ces vieux trucs français, des trucs de Claude Berry et compagnie, des vieilles reconstitutions et tout ça. C'est que bah, pour moi, c'est un film qui est vraiment filmé au passé, quoi. Enfin, qui est vraiment, quand tu dis il n'y a pas de boussole morale, à aucun moment le film nous dit que le mec, il est méchant et tout ça. En fait, il a tellement un surmoi historique, tellement important, il filme tellement du passé en disant « Regardez, vous voyez ce personnage de collabo, vous savez que c'est un méchant parce que c'est un collabo », que bah, ce point de vue qui est presque absent de son film en tant que tel, mais il est là, c'est une sorte, comme une sorte de surmoi qui fait que son film, il est surplombé de ce regard-là qu'il ne prend pas en charge cinématographiquement. Je pense que je suis pas très clair là-dessus.
Non, mais je pense que
c'est un film. Enfin, il ne multiplie aussi beaucoup les mises à distance, quoi. Il y a cette mise à distance pour moi là qui est vraiment peut-être du ressenti de ma part, où je me dis oui, effectivement, c'est un film qui tu le montres à quelqu'un de complètement étranger à l'histoire, il comprend rien parce qu'en fait tu peux même pas savoir limite que les juifs sont exterminés, que des gens sont torturés, tu peux même pas le savoir dans le film, quoi. Tu sais pas ce qui se passe. Donc c'est vraiment, tu le sais parce que t'as ce bagage historique là. La deuxième et à distance la plus évidente, c'est évidemment le fait que c'est un film qui est narré, qui est par la fille de Jean Luchaire, et qui fait son podcast dans sa piole là, et qui instaure une subjectivité et puis une distance par rapport à ce qu'on voit. Moi, j'ai l'impression de voir un film qui se déroule dessus. Moi, à aucun moment je ne ressens un tiraillement intérieur du personnage, ça c'est sûr.
Je l'ai pas senti non plus.
J'ai pas senti le tiraillement, moi, en tant que spectateur, entre un truc, ou si ce n'est de façon extrêmement grossière. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que je mettrais vraiment au discrédit du film totalement, c'est que le film me paraît appuyer, chercher de façon assez grossière des mécanismes identificatoires sur la souffrance du mec par rapport à sa maladie, quoi. Ouais. Et je me dis, mais le film accorde quand même une grande importance à ça. Alors, j'ai l'impression qu'en plus le film en a conscience, donc il drape ça derrière une sorte d'allégorie, c'est-à-dire que c'est la fameuse pourriture intérieure, pourriture morale qui devient une pourriture intérieure, donc c'est ça, c'est signifiant, Bon, moi, c'est lourdeau dans les deux cas, c'est lourdeau dans la métaphore et c'est lourdeau dans ce mécanisme identificatoire qui fait que je vais faire suivre une vraie merde humaine, quoi, une merde humaine, veulent quoi.
Il est régulièrement il revient, il redevient attachant, attachant,
ouais,
charmant,
ouais, mais moi je trouve pas, je le trouve à aucun moment vraiment charmant. Je trouve que c'est encore une fois un film qui, je trouve qu'il fronce un peu les sourcils, quoi.
Charmant comme peut l'être un personnage comme Travis Bickle, je veux dire.
Ouais.
Il est pas charmant dans le mode il va te séduire, mais charmant dans le sens où l'identification, malgré tout, en tant que spectateur, elle fonctionne, en fait, parce que comme le dit le procureur Toreton à la fin du film, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là, en fait. Et toi, en tant que spectateur, poser des questions. Moi, régulièrement, c'est ça qui m'a aussi intéressé, pas plus, mais en tout cas intéressé au long du film. C'est et du coup, il me flingue avec son réquisitoire final. T'aurait-on, c'est toutes les questions que je me suis posées sur 3 heures de film. En 30 secondes, t'aurait-on fait son réquisitoire, et toutes les questions que je me suis posées, mais non, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, clairement, et je vous le répète si vous l'avez pas compris pendant le film, c'est que vous avez, il y a l'histoire de cet homme, c'est une chose, mais ça n'empêche pas que c'est une grosse merde. Ouais. C'est une grosse merde, et n'oubliez pas ça, en fait. Vous vous êtes attaché à un personnage, vous avez vécu avec lui, toi tu l'as pas vécu. Soit, moi je l'ai accompagné, en tout cas ce personnage-là, ces deux personnages-là, pendant 3 heures, parce que c'est pas uniquement le personnage Jean Luchaire, sa fille aussi, j'y reviens tout de suite et après je te laisserai finir si tu te rappelles de ce que tu voulais dire, mais voilà, ce sont des grosses merdes, et elle, sa défense quand même pendant tout le film, où à chaque fois qu'elle doit se défendre de j'étais pas au courant et c'est parce que c'était mon père et j'ai fait ce qu'il me disait, c'est grosso modo, il reprend la défense des soldats nazis au procès de Nuremberg, mais non, mais on a respecté les ordres, on a fait ce qu'on nous demandait de faire, et elle a fait la même chose, et donc voilà, la condamnation, disant, Bref, donc voilà, en termes de moralité et en termes de politique même, de ce que représente le film, moi je suis plutôt content. Et encore une fois, c'est parce que je pense qu'il ne prend pas les spectateurs pour des cons. Tu dis, en effet, on ne voit pas le reste. On n'est pas non plus dans Marie-Antoinette de Coppola, dans un film sous cloche. Mmh. Mais en effet, à aucun moment... on ne voit la misère de l'occupation, on ne voit les meurtres, les déportations, on évoque tout ça, ça reste du hors-champ. Et pour moi, c'est faire confiance aussi au spectateur et à son intelligence, en fait. On sait que ça arrive. Et c'est pour ça que le film m'a plu, je pense, hein. C'est que j'avais l'impression quand même d'avoir affaire à un cinéaste qui me montrait un film et qui me prenait pas pour un con, qui me demandait aussi un certain effort, en effet, de remplir les blancs, peut-être, de voir ouais, tout ce qu'il n'a pas montré, pas, ouais. Tu vois, par exemple.
Non, mais bien, moi, je comprends.
Il ne montre jamais, par exemple, ouais. Le reste de la famille. Il y a deux autres enfants, il y a une femme, on les voit jamais,
oui,
ça
oui,
n'intéresse
oui, non,
pas.
Bien sûr, bien sûr.
On a affaire,
non,
vois,
mais c'est
des,
un film qui,
choix.
Effectivement, a son focus et tout ça, qui peut correspondre à son mode de narration, qui est très. Bah oui, qui est porté par la fille qui raconte, effectivement. Bah, pourquoi pas, voilà, très très bien. Mais ceci dit, voilà, j'ai même si on a cette focalisation là, ça ne l'empêche pas d'avoir quelques mécanismes ou trucs dramaturgiques identificatoires, moi, qui me paraissent vraiment très grossiers et qui vont un peu à l'encontre de ce que tu dis sur voilà, je laisse toute la place au spectateur. Non, moi j'ai l'impression que même le début du film, la façon dont les pseudo résistants, ou plutôt les simili les résistants de la dernière heure ou je sais pas quoi, qui cassent la gueule de la nana, ceux après qui vont aller l'humilier
mais oui
aussi.
Mais est-ce que t'as souvent vu ça au cinéma, toi, les résistants de la dernière
non.
heure? Moi j'y ai pensé.
Non, bien sûr. Non, mais
pourquoi le cinéma français s'est pas emparé
bien sûr,
de ça?
Ça c'est une autre question. Effectivement, moi je pense qu'on sait qu'il y a un vrai problème en France là-dessus sur filmer ça. Hein. Voilà, on en parlait.
Il y a que la traque, mais c'est pas précis. Mais la traque, c'est ça, quoi.
Oui, la traque est payante.
Non, mais tu vois, il y a des films de ce genre d'exploitation des années 70.
Il y a beaucoup de films. Enfin, il y a beaucoup de films qui peuvent parler de ça de façon déviée et tout ça. Mais on sait que la France a un problème avec son histoire, donc il ne filme pas ça, évidemment, quoi. Moi, après le truc où ça m'est revenu il y a pas longtemps, on me dit bah oui, c'est quoi le film qui pourrait être intéressant là-dessus? C'est peut-être Black Book de Verhoeven, qui effectivement ne traite pas de la collaboration française, parce que c'est un cas unique, hein, quand même, mais qui se passe en Hollande, mais sur un personnage relativement similaire, mais de juive qui va s'en sortir en se liant d'amitié avec les nazis, quoi, tout simplement, et qui nous pose dans une situation morale aussi un peu compliquée, parce qu'elle a aucune solidarité avec les opprimés, quoi. Elle essaye en tout cas de s'en sortir un peu de la même façon, de le même mécanisme que ce type-là, qui veut préserver son mode de vie un peu comme ça. Mais bon, voilà, moi je trouve que le film je le trouve extrêmement scolaire, mais c'était déjà le cas. Et il y a un autre truc qui me fait dire que c'est vraiment du film, en tout cas filmé au passé, enfin, c'est-à-dire avec distance, c'est que c'est toutes les petites phrases et tout ça qui sont vraiment des références à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Et je me dis
déjà dans l'illusion perdue, voilà,
et dans l'illusion perdue, il y a ça,
en avait beaucoup,
et déjà
et là, il y en a beaucoup,
je m'étais
moins
dit,
quand même.
Je suis partagé toujours avec ce type-là en disant bon, c'est très bien, en France on a quand même des artisans solides qui font des spectacles qui sont pas nuls à chier, voilà, et qui ont un peu de concept sous le capot, quoi, on va
oui,
dire.
Non,
quoi.
Mais ça, je suis d'accord.
Mais ceci dit, je trouve ça vraiment, vraiment scolaire, de la même manière que je trouvais les films de Berry scolaires ou d'autres
c'est
trucs.
C'est pas du niveau
vraiment
de Berry
scolaire.
Quand même.
Non, peut-être pas, parce que là ce qui m'embête beaucoup plus dans Le Rayon et les Ombres, par rapport d'ailleurs aux Illusions perdues, qui est beaucoup plus classique, parce que c'est balzacien, que c'est des modes de narration beaucoup plus
Illusions perdues, c'est Les Affranchis, et puis là, c'est Radin-Boule.
Ouais. C'est pour moi, là, il y a une volonté d'aller flirter avec une idée qui est plus celle du cinéma moderne, d'aller chercher un personnage complètement de freiner a priori tous les mécanismes identificatoires
pour aller chercher
Scarface,
ça je pense à comme Lucien, Scarface, en fait,
ouais, parce que l'autre film c'est Lucien, ouais, mais évidemment qu'il y a la séduction. Et même moi, je trouve que là-dedans, eh ben, même quand il filme les fêtes avec les nazis, ben, je me dis c'est timide. Il le filme au passé, il le filme pas comme, pas comme
tu vois,
dans
mais
Black
j'ai
Book
pu penser aux damnés, quoi. Mmh. J'ai pu un moment penser que quand il y a vraiment ça part en cacahuète et qu'il il fait les mêmes séquences dans Les Yeux Perdus. Je ne sais pas s'il en fera un troisième, s'il fait une trilogie comme ça sur scorsésienne un petit peu française. Mais moi, il y a des moments où je me dis, bah oui, ça m'a donné envie de revoir Les Damnés que je n'ai pas vu depuis 20 ans, de Visconti. Mais voilà, sur cette, la fin de cette fange nazie en France et ailleurs en Europe, sans parler de Pasolini et des Sauvageries de Sodome. Mais franchement, il leur présente plutôt bien cette décadence.
Ouais,
et
mais
cette
moi je pense que c'est un cliché, ce truc là enfin c'est un truc que tu trouves évidemment dans Salo, c'est un truc que tu vas trouver chez Visconti, c'est un truc que tu vas trouver dans d'autres films, cet aspect, voilà, les fêtes décadentes et tout ça, toujours
on a pas
et que tu vas trouver dans la Nazi-exploitation aussi, hein.
Ouais, mais qu'on a pas, qui est oublié, qui n'existe
bien sûr,
plus
on n'a pas
aujourd'hui.
Vu depuis longtemps, mais qui est aussi une façon un peu étrange et un peu complaisante de satisfaire du spectacle de ces fêtes-là, mais tout en mettant une distance. Et puis il y a un truc beau et séduisant dans la décadence.
Que je parle de la boussole morale est importante.
Ouais, peut-être, mais en fait moi je me dis que même dans les fêtes qu'ils filment, je me dis, en fait, c'est terrible, hein, ce que je veux dire, mais je me dis, mais en fait, les fêtes, je suis sûr que les mecs, ils s'amusaient bien. Là, dans les fêtes, on dirait qu'ils savent qu'ils sont en train de crever. Les mecs, c'est.
Oui, mais oui, ils profitent de leurs derniers instants,
oui,
mais c'est
fait,
des monstres.
Mais,
hein, mais...
Ouais, mais en 42, tu vois, ils étaient en plein truc de leur pouvoir, et t'as l'impression qu'ils se font chier parce que c'est filmé quand même avec ce truc du passé où, genre, oh, attention, il faut pas trop séduire avec ça. Alors que les mecs, ils s'éclataient. Je pense que dans Black Book, je pense que je vois tout de suite Verhoeven dans les fêtes avec les nazis. Il dit non, mais là, vous vous amusez, quoi. Vous n'êtes pas obligé de prendre un air emprunté. Là, vous vous éclatez, les
mais
mecs.
Il y a la fierté. On montre. Enfin, il y a ces fêtes-là, en fait, dans le film. Il y a ces fiertés. Il y a ces... Mais par contre, ils sont vus depuis un autre point de vue, celui de cette jeune fille, jeune actrice qui découvre que non.
Ça insiste vachement là-dessus.
Non, pour moi, sur 3h30, justement, j'ai pas trouvé ça appuyé. Tu vois, de temps en temps, il me le rappelait, quoi, parce que j'avais oublié qu'il était en train de crever, justement. Il m'avait fait oublier qu'il était malade régulièrement dans le film. Il faut rappeler qu'il dure 3h, plus de 3h, 3h et quart. Et il me le fait oublier régulièrement. Et de temps en temps, il me le rappelle. Ouais, au fait, regarde, il est pourri de l'intérieur. Et en même temps, c'est une maladie. Hein. On va pas se reprocher aux gens d'être malades. Mais en effet, ça représente quelque chose de son intérieur, en effet, qui est un peu moisi. Mais qui est un type qui ne le fait pas par conviction, qui le fait en effet sans doute par vénalité. Ça, il le contredit jamais, en tout cas. C'est une chose sûre. Il y a une grande part de vénalité dans ses actions. Et à côté de ça, on nous représente le film. C'est un choix aussi quand même du point de vue de sa fille, qui le voit en effet comme un papa avec qui elle a une relation très problématique. Vraiment, il y a des séquences. Déjà, le fait d'isoler, de ne jamais voir les autres enfants de cet homme, ni sa femme, et qu'ils aient leur relation à eux, et qu'ils s'accueillent à
la
gare ou ailleurs,
même copie.
Comme un couple, qu'ils soient présents quand elle se découvre femme, et qu'elle fait ses essayages de robe, et qu'il la regarde vraiment, comme il regarderait n'importe quelle. Il y a une relation vraiment très, très ambiguë entre les deux. Et tu vois, ça crée quelque chose, encore une fois. Ça, par exemple, cette relation-là, jamais elle est expressément dite par un autre personnage ou par quelqu'un dans le film, quelque chose, comme si c'était problématique. Ça, c'est à toi, en tant que spectateur, de te dire, là, non,
ouais, mais
Ouais,
mais moi, je trouve, c'est en quoi c'est le sujet. Pour moi, ça me paraît correspondre complètement au truc de la Nazi-exploitation, qui a complètement... voilà, il y a des films que j'aime bien, mais évidemment que ce n'est pas des chefs-d'œuvre, c'est des curiosités. Mais qui préfigure, voilà, les nazis comme un monde décadent. Donc ça veut dire avec tout, quoi, les amours homosexuels, lesbiens, le SM, la conscience qu'on va mourir.
Tu
ne
peux pas comparer les homosexuels et l'amour entre un père et sa fille. Tu n'as pas le droit de faire ça, Antonin.
Mais tu vois ce que je veux dire, c'est devenu un cliché. bah, de l'imaginaire un petit peu, de l'imaginaire qui pouvait entourer les nazis. Il y a une vraie projection sexuelle là-dessus. Et c'est
pour des gens qui ne vont pas bien, pas chez nous. Hein.
Oui, évidemment. Moi, je suis un adulte responsable, mature, et tout ça. Mais il y a quand même une façon, il y a quand même tout un cliché qui enrobe ça, mais dont fait partie Indiana Jones avec le mec qui te sort un cintre, qui devient un nunchaku, qui devient un cintre et tout ça. Ça véhicule toute une sorte d'imagerie. Et je pense que le film.
On n'a pas ça dans Les yeux sont perdus.
Pour moi, tout le côté décadent qu'il y a dans le film, là, et tout ça, je me dis, c'est tellement filmé lointainement et toujours en lien avec des gens.
J'ai pensé à la Polonie, à certains plans, j'ai pensé à des choses comme
moi,
ça.
J'aurais bien aimé penser à ça, mais moi, je me suis dit, oh là là, toutes les fêtes où ils sont, là, j'ai pas envie d'y être. Je dis pas que j'aurais. Mais enfin, si, je pense qu'il aurait fallu filmer pour que ça soit vraiment. Pour questionner vraiment ma boussole morale, il faudrait dire, ouais, putain, je vais des.
C'est peut-être là où le film, et on va s'arrêter là-dessus, a le cul entre deux chaises. C'est qu'en effet, la boussole morale, c'est celle de cette fille, en fait. On est de son point de vue. La boussole morale.
Elle n'en a pas. Hein.
Et elle en manque parce qu'elle a du coup été éduquée par cet homme. Donc c'est là que l'écriture, je trouve, est assez brillante en termes de construction. C'est-à-dire qu'en effet, on triche sur la boussole morale via ce point de vue. Et cette représentation d'un personnage via voilà. Et la petite nuance qui, moi, m'intéresse beaucoup, ça reste un truc, en effet, peut-être un peu. Mais je suis toujours intéressé par de quel point de vue on montre le film et comment raconter l'histoire. Et on pourrait faire une émission entière sur Vertigo de Hitchcock, sur de quel point de vue est montrée l'histoire et qu'est-ce que ça raconte pour de vrai. Et est-ce que la deuxième partie n'est pas complètement imaginée comme dans Est une fois en Amérique. Et tu vois, c'est des choses comme ça, en fait.
Hitler aurait gagné la guerre.
Attention de ne pas faire de raccourcis. mais voilà, et donc du coup, c'est toujours nuancé. Mais je l'ai entendu, Giannoli, se défendre suite à des polémiques. On va entendre un extrait de Ils ont perdu pour ta mise d'émission qui évoque ce problème d'ailleurs. Parce que des historiens lui ont reproché en effet de faire des raccourcis et de transformer les dates de la réalité. J'avais l'impression d'avoir les mêmes débats que pour la sortie du biopic de Bob Dylan avec les fans de Bob Dylan qui disent mais c'est pas à ce moment là qu'il a fait cette citation là, c'est pas à ce concert là qu'il s'est fait traiter de Judas, vous faites n'importe quoi avec la réalité. Les historiens, les fans de Bob Dylan, c'est vraiment des gens qu'il faut pas faire chier quoi, parce qu'ils te suivent à la trace quoi, et t'as pas intérêt à faire une connerie.
C'est des nazis.
Et à chaque fois de retomber sur le même discours pour se défendre, celui de Giannoli, c'est une œuvre de fiction, on a écrit, on évoque un vrai problème, et là d'un coup, en effet, la France a mal, et en plus, il est un peu trop présenté comme un homme de gauche au départ. Et bah oui, il a commencé comme ça dans un parti de gauche pacifiste, et puis fuite. Même s'il n'est pas resté longtemps, hein, voilà, mais ça part vite hein, de partir du PS pour aller à l'extrême droite, ça va très très vite en fait. Et il parle de ça en fait, le film. En fait, c'est ça le film. Il te dit de comment t'es quelqu'un du PS et fiat, t'es un collabo.
Manuel Valls, allez hop.
C'est un biopic en fait. Illusion... Les rayons des ombres, c'est un biopic de Manuel Valls. On va se quitter là-dessus parce qu'il est temps. Merci à vous de nous avoir écoutés. L'émission est diffusée avant ou après la mini-conférence qui aura lieu à l'Arvor.
La mini-conférence, non, la giga-conférence. Ouais, giga
avec trop d'invités, pas du tout.
La convention.
Donc vous écoutez
cinéphile.
Cette émission, la voilà. Et ben vous l'avez raté, comme moi.
Non, vous ne l'avez pas raté. Vous avez le temps de prendre votre billet pour Rennes. C'est le 25-26 avril. Vous pouvez venir. Étienne ne sera pas là. Il sera à une convention des fans de Matt Damon.
On choisit
à Las Vegas.
On choisit nos combats dans la vie.
Et vous pourrez avoir des tas de choses bien. Bon, de toute façon, les programmes, c'est sur les internets.
Vous avez l'occasion de voir RRR sur grand écran.
Déjà,
et puis plein de
première
super invités,
française, ça va être extraordinaire, avec des tas d'invités cool, des tas de DVD et Blu-ray pas chers. Et voilà, ça va être super.
Voilà, super. Bah, je suis ravi pour vous. Amusez-vous bien pendant cette mini-convention. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission, comme toutes les autres, bien évidemment, ou quasi sur le site de Canal B ou sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. Et puis les liens sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise, bien évidemment. On se quitte avec un extrait d'Illusion perdue de Xavier Giannoli, dont le film Les rayons les ombres est toujours à l'affiche à l'Arvor notamment. Ouais, je dis pas ça parce que le patron participe à cette émission.
On ramasse plein de caillasses avec ça.
Merci Antonin. Merci
moi,
à vous.
Aucun problème.
À très bientôt.
Du moment qu'il y a de la caillasse, je collabore.
Ciao.
Bisous.
Mais le livre est bon, Doria, il a se vendre. Les premières critiques sont même excellentes.
Ah, parlons-en des critiques. Vous faites payer 150 francs la bonne critique maintenant? Ben on va aller jusqu'où comme ça?
Faut bien vivre.
150 francs
là, une bonne critique, ça se paye.
Oh, mais vous calculez ça comment? Au pif? Fin de la parisienne? Et maintenant, vous allez me demander combien pour lancer Nathan? Combien? Et il est où, celui-là, le divin enfant?
Je suis là. Mais justement, t'avais promis de tirer 4000 exemplaires de mon roman et maintenant on me dit que tu refuses de payer les frais de publicité? Ça sert à quoi, Doria?
Non mais qu'est-ce que tu me chantes? J'ai payé Lousteau 200 francs pour un article à ta gloire dans son canard à la noix.
Oui, bah, Lousteau.
200 francs pour être en première page. Vrai ou faux?
Et Blondet, alors? Blondet, tu devais payer Blondet en premier au Figaro, qu'il m'attaque et lance une polémique. Pour l'instant, aucune polémique, rien du tout. Je fais comment sans polémique? Mais dites-moi, comment on fait aujourd'hui pour vendre un livre sans polémique?
Mais il a raison, moi j'attendais l'attaque dans le Figaro, sinon je peux pas écrire mon article.
Le scroc.
Doria, il a même pas ouvert le livre.
Mon cher Nathan, vous savez comme moi que quand on doit écrire la critique d'un livre, il vaut mieux ne pas le lire, sinon ça influence.
Et ce bon mot n'est même pas de lui, c'est de Chamfort.
Et alors, c'est l'esprit français que je défends.
L'esprit français, vous pourriez le défendre en écrivant autre chose que ces petits articles.
Il vaut mieux un bon mot plutôt qu'un mauvais livre, vous ne pensez pas?
Allez, on avance, mes enfants, j'ai faim.